Bonjour Sandra Cogut.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes cinéaste, vous arrivez tout juste du Brésil, vous avez posé les pieds sur le sol français avant-hier et vous étiez devant votre poste de télévision hier soir devant la cérémonie des Césars. Vous l'avez donc regardé avec curiosité, intérêt, avec quel œil ? L'œil de la cinéaste, l'œil de la brésilienne, l'œil de la femme, quel œil ?
Alors,
était le vôtre.
Je dois dire tout ça en même temps, avec beaucoup d'intérêt, parce que je pense qu'on vit un moment particulier, très spécial, et c'est, je pense qu'il y a beaucoup de choses communes qui se passent entre des questions qui ont été soulevées pendant cette cérémonie des Césars et des questions qui sont soulevées au milieu du cinéma au Brésil, aux États-Unis. C'est vraiment un changement de culture, je crois, qui est en train de se préparer. Et c'est pas facile. Enfin, tous ces débats sont très importants et très intéressants. Donc j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt.
Et vous en avez pensé quelque chose, après coup ?
Je pense que il y a beaucoup de discussions qui sont fondamentales et qui sont pas faites sans tension. C'est vraiment compliqué parce qu'on et ça on le voit un peu partout en fait. Il y a un vieux monde qui résiste et un nouveau monde qui veut vraiment trouver une place et c'est extrêmement tendu.
C'est comme si le cinéma vivait sa bataille d'Hernani, bataille d'Hernani qui est la bataille des anciens et des modernes qui était en littérature, mais il y a déjà quelques siècles. Alors vous étiez devant votre poste, Sandra Cogut, hier soir. Nous avons au téléphone quelqu'un qui était dans la salle Pleyel à Paris hier soir, qui l'a vécu vraiment de l'intérieur, à tel point même qu'elle l'a vécu puisqu'elle a gagné un César. C'est Yolande Zoberman qui est avec nous par téléphone et que je remercie d'être avec nous si tôt. Bonjour Yolande Zoberman.
Bonjour.
Vous avez gagné le César du meilleur documentaire pour votre documentaire M, qui avait déjà été vainqueur des Lumières 2020, un film sur les milieux juifs ultra-orthodoxes d'Israël et peut-être aussi sur l'enfance blessée dont vous nous direz un mot tout à l'heure. Vous avez passé une bonne soirée, vous, Yolande Zoberman, hier soir ?
Écoutez... Moi, j'étais contente de recevoir ce César pour ce film, effectivement, que j'ai tourné, non pas sur le milieu orthodoxe mais en Israël, mais dans le milieu orthodoxe et sur la pédophilie. Et donc, j'étais un peu au cœur du problème qui était soulevé hier. Je trouve effectivement qu'on vit une époque assez incroyable parce que ces problèmes sont vieux comme le monde. Les gens jusqu'à il y a très peu vivaient de manière solitaire cette souffrance qui est si fréquente en fait. Hein. Moi, en faisant ce film, j'ai réalisé à quel point le viol, par exemple, des enfants était fréquent dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans tous les pays, et qu'enfin la parole se libère, c'est-à-dire que le silence de la honte se brise, et ça c'est vraiment formidable. Et voilà, et donc on est vraiment dans ce moment-là. Et moi je crois que ce qui est très important, c'est de pouvoir obtenir en fait la fin des prescriptions, parce que le viol c'est quelque chose qui tue presque. En fait, hein. Voilà, et ça permettra aux juges de juger et plus à la rue, en fait. Et je trouve très important de cette passation, en fait. Alors aujourd'hui, la lutte, elle est dans la rue parce que justement, un certain nombre de crimes ont été soit tués pendant très longtemps, ce à quoi on assiste, par exemple aux États-Unis avec le procès de Weinstein. C'est quelque chose qui a été si souvent pratiqué, en fait, hein, ce qu'il a fait.
Yolande Zuberman, le contexte malgré tout de cette soirée hier était inédit entre la démission de la direction de l'Académie des Césars, les protestations avant contre les 12 nominations pour Roman Polanski, la dénonciation du manque de parité et de diversité qu'on a entendu tout au long de la soirée. Une soirée qui a vécu une sorte d'apogée avec la distinction faite à Roman Polanski, qualifiée pour la meilleure réalisation. On entendait Adèle Haenel, qui d'ailleurs est sortie de la salle, et pas seule, avec un certain nombre de personnes, dont Céline Sciamma, qui l'ont suivi. Mais dans le New York Times, quelques jours avant, Adèle Haenel avait dit « Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes ». Et même le ministre de la Culture, hier, avait dit que primer Roman Polanski serait un symbole mauvais. Comment regardez-vous cette distinction, vous, Yolande Zuberman?
À vous dire vrai, ce que je regrette profondément, c'est que ce soit pas le film de Céline Sciamma qui a été élu meilleure réalisation, parce que ce film le mérite, il est absolument magnifique et je trouve qu'il n'a pas du tout eu les prix qu'il méritait. Et donc déjà au niveau du cinéma, je regrette en soi que ce soit pas ce film-là qui ait été primé. Pour le reste, Je reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire j'aurais aimé que toutes ces histoires soient jugées par un juge, en fait, hein. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que grâce à la lutte et grâce à ce qu'a fait Adèle Haenel et d'autres en fait. Justement, enfin, tous ces problèmes sortent et la parole se libère. Et en même temps, j'aimerais que ce soit pas jugé par le public, mais par des juges. Et si Polanski est coupable de tous ces crimes, complètement raison.
Qu'il en rende compte devant la justice. Merci beaucoup, Yolande Zuberman, et toutes nos félicitations pour ce film M, qui a donc été récompensé du César du meilleur documentaire, et que Sandra Cogut, notre invitée, a vu. Vous avez vu M?
Oui, j'ai la chance de l'avoir vu, et c'est un très beau film, et en même temps, c'est un film assez improbable. On se demande, en le regardant, comment il a été fait. Et ce film, en plus, il a quelque chose de vraiment très spécial, c'est qu'il est entièrement tourné la nuit. Et ça va complètement avec ce qu'il raconte. Et on se rend compte petit à petit, en regardant le film, à un moment, on est complètement immergé dans cette ambiance. Et on se rend compte qu'il y a en plus ça, que ça se passe tout le temps la nuit. Et je pense que c'est vraiment bien, très bien trouvé, très bien réalisé. Mes félicitations.
M, un film qu'on invite donc nos auditeurs à voir, s'ils le peuvent, plonger dans les milieux juifs ultra-orthodoxes d'Israël et sur l'enfance blessée. Votre film à vous ne se passe pas la nuit, Sandra Cogut, il se passe en plein jour, mais il se passe pendant trois étés au Brésil, qui correspondent au mois de décembre, trois Noëls, on pourrait dire. On va en entendre un extrait, l'extrait de la bande-annonce.
Fim de ano, qual é o belo que é fim de ano? É o pesadelo do caseiro.
Salsicha, pô.
Faz uma foto, vamos.
Sabe, tem que fazer pedido, né, pai?
Roda mais uma vez. Isso, cuidado pra não botar a mão na pintura.
Isso aqui alguém compra?
Sim, Madalena. É uma fortuna.
Estamos fazendo uma busca aqui.
Mas dá pra você ver de gato, foi preso.
Ah, para com isso.
Tô falando sério.
É tintim, né? Quebrando o copo todo, não.
Isso.
Você me irrita com essa tua alegria.
O Edgar, mesmo num momento tão difícil como esse, ele faz questão de dizer que não esqueceu de vocês.
Tá, mas e os atrasados, seu João Paulo?
Você não vai ficar assim, mas não vai mesmo.
Vamos entrar em outra.
E tem mais ou menos uns três ou quatro que também não foram presos. Que é jogador de futebol.
Voilà, là au moins on est plongé dans le Brésil avec cette chanson, cette musique de la langue brésilienne qui est la vôtre, Sandra Cogut, et cette voix de Regina Cassé qui est l'actrice principale du film, qui porte, qui illumine le film. D'ailleurs, de bout en bout, elle est quasiment dans tous les plans de ce film puisque c'est un portrait de femme, Trois étés. Elle, Regina Cassé, qui incarne Madalena, Mada, femme à tout faire, comme on dit homme à tout faire, femme à tout faire dans une maison cossue de Rio de Janeiro, au Brésil. Portrait de femme et portrait d'une société où règnent les inégalités sociales, puisqu'on la voit vivre avec ses patrons très riches, et puis la corruption des élites. On est avant l'élection de Jair Bolsonaro. C'est un Brésil de l'avant Bolsonaro que vous avez filmé.
Alors, trois étés, ça veut dire trois années consécutives. Donc, été effectivement de l'hémisphère sud, été brésilien qui se passe au mois de décembre. Donc, il faut pas s'étonner de voir Noël avec de la fausse neige au bord de l'eau.
Faut pas s'étonner, mais quand on est français, on s'étonne quand même un peu au début. Hein. C'est normal.
Et alors, donc 2015, 2016, 2017, c'est toujours la dernière semaine de l'année qui n'est pas une semaine anodine puisqu'on a, c'est une semaine où il y a justement les fêtes de Noël avec les drames familiaux, etc. Et puis à l'horizon, il y a le Nouvel An qui, avec ses promesses, où maintenant ça va être mieux, etc. Donc c'est vraiment une semaine particulière. Et ça se passe dans une maison qui est une maison de plage. Donc c'est pas la maison où ils habitent. Et ça, c'est très important parce que ce personnage de Mada, c'est un personnage entre deux mondes. C'est-à-dire qu'elle est à la fois l'employée des patrons, mais elle est aussi la chef des employés. Et c'est comme c'est une maison où pendant toute l'année, les patrons ne sont pas là. C'est un peu son règne. Donc elle maîtrise un peu la situation. Et ça, c'est important parce que, en fait, ce film, il parle d'un Brésil qui a un peu acheté, entre guillemets, le rêve, entre guillemets aussi, un peu le cauchemar néolibéral, c'est-à-dire une idée de société où tout le monde veut être patron. Et quand on regarde ce film, on se rend compte que, parce que le film justement se passe juste avant l'année 2018 qui a fait que est monté au pouvoir un gouvernement d'extrême droite, et on voit, en regardant le film, que les signes sont tous là, de ce qui allait venir, mais que personne n'est capable de les lire.
Quels signes ?
Alors justement, c'est les signes d'une société où c'est chacun pour soi. Il n'y a plus tellement les liens collectifs, parce que les valeurs sont des valeurs de l'argent. Tout le monde, tout doit être potentiellement un petit business, tout le monde est un peu désespéré pour trouver, faire de l'argent, soit donc par manque de choix, par désespoir, soit par avidité. Les riches, les pauvres, ça tourne beaucoup autour de ça.
Il y a quand même un personnage qui échappe à ça, qui ne parle pas d'argent, c'est le vieux père qui aime les encyclopédies poussiéreuses, mais justement vous montrez, Sandra Cogut, qu'il n'a peut-être plus sa place, il est anachronique dans ce monde-là, le vieux père.
Ouais. C'est un personnage très émouvant, c'est une espèce de réserve morale, on va dire, dans l'histoire. Et en même temps, c'est ça, il ne trouve plus sa place. C'est le seul personnage humaniste. Donc c'est un film, en même temps, c'est un film très qui parle de tout ça avec une espèce d'humour un peu acide parfois, mais aussi très humain. C'est-à-dire qu'on est... On rit de nous-mêmes, on se retrouve dans ce film, il y a une espèce de miroir des différents groupes sociaux, etc.
Un humour décalé et un regard oblique, Sandra Cogut, puisque d'une certaine façon, vous filmez ce qui reste dans la mesure où, très vite, hein, dans le film, le patron est arrêté pour corruption. Il a volé de l'argent public, ce qui rend malade son vieux père, puisqu'il a volé l'argent de l'hôpital, il a volé l'argent de l'école. Mais vous filmez ceux finalement qui ne font jamais la une de l'actualité économique, comme si c'était les conséquences pour les domestiques que vous regardiez de près à travers cette femme, Mada, quand les patrons, eux, atterrissent en prison. Donc un regard un peu oblique.
Alors c'était curieux parce que ces années-là, c'était des années où il y avait beaucoup de drames, de scandales, d'histoires de spectaculaires, de gens arrêtés par des histoires de corruption et tout ça. Et le pays entier suivait ça sur les médias, un peu comme une telenovela parfois, c'est-à-dire que on disait en rigolant que autrefois les Brésiliens connaissaient par cœur le nom des 11 joueurs de la sélection de foot et que maintenant ils connaissaient par cœur les 11 juges de la Cour suprême, parce que tout le monde suivait ça avec passion. Et en même temps, en suivant ça, je me disais, mais il y a des personnages qu'on ne voit jamais. Ce serait qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont autour de ces riches et puissants quand leur vie s'écroule? Et ces personnages-là, c'était soit des figurants dans ces histoires où ils étaient hors cadre, ils étaient invisibles. Et je me suis dit, mais je veux voir qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Et c'est comme ça que ce film a démarré. Donc c'est vrai qu'on regarde ces histoires, cette histoire, à travers les yeux de gens qui, normalement, on ne voit pas.
Sandra Kangut, on parlait des Césars, et donc de cette cérémonie de remise des prix français hier soir, que vous avez regardé. En même temps, dans votre propre pays, le Brésil, le monde du cinéma est en émoi en ce moment, avec un paradoxe finalement, puisque de plus en plus de films brésiliens sont primés dans le monde entier, qu'on pense à Bacurau ou de Kleber Mendoza Filho et Joano Dornel qui a été primé à Cannes, le documentaire Une démocratie en danger de Petra Costa qui était en lice aux Oscars, Tous les morts de Marco Dutra et Caetano Gottardo qui est en lice pour l'Ours d'or de la Berlinale qui sera remis ce soir. Un certain nombre de films donc existent vraiment dans le monde entier et le vôtre va sortir le 11 mars sur les écrans français. Et en même temps, Jair Bolsonaro est en train de faire des coupes claires dans le cinéma. Il y a beaucoup d'inquiétudes des collectifs d'artistes, d'intellectuels brésiliens qui signent des pétitions, des tribunes pour dire à quel point le cinéma et la culture en général sont en danger. Et en particulier cette agence nationale du cinéma qui est l'équivalent du CNC. Est-ce que ça a été votre film a été tourné avant? Est-ce que vous avez vraiment senti un changement, vous, en tant que cinéaste, entre l'avant et l'après Bolsonaro pour le cinéma?
Absolument, c'est très clair. On est tous un peu sous attaque. D'ailleurs, c'est pas que le cinéma, c'est pas que la culture. Ça se passe aussi avec l'environnement, l'éducation. Enfin, c'est un démantèlement absolu de toutes les politiques publiques qui ont permis au Brésil de devenir un pays plus riche, plus intéressant. Enfin, tous les projets maintenant sont sous attaque. Alors, pour le cinéma en particulier. Moi, je fais partie d'une génération qui a commencé à faire du cinéma quand le cinéma au Brésil s'était arrêté. C'était à l'époque Collor, c'est un président qui a d'ailleurs a subi un impeachment. Et le cinéma était devenu déjà à l'époque impossible. Et ça, c'était les années 90. Et entre-temps, j'ai vu, grâce à une quantité énorme de politiques publiques, de projets, etc., c'est un secteur de la société qui s'est construit. Et quand on voit les films qui circulent dans le monde aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est le résultat d'un travail de longue haleine qui a permis de construire l'audiovisuel au Brésil dans sa diversité et qui est maintenant sous danger, vraiment, en ce moment.
Avec un budget amputé de 43% en 2020. Donc tous ces films qui sortent ont été tournés avant. Le problème va se poser à partir de maintenant, c'est ça?
Les films qu'on voit maintenant sont encore des films qui ont réussi qui étaient en cours ou qui avaient déjà eu l'argent débloqué avant. Donc on voit un peu ce qui reste encore en cours, mais on estime qu'il y a entre 400 et 600 projets en ce moment qui sont bloqués. C'est-à-dire, ce qui va devenir vraiment plus grave, ça va être à partir de maintenant, l'année prochaine, les années suivantes. Et c'est vraiment, c'est très grave. Et c'est, alors ça va pas être si facile de détruire tout ça parce que justement, c'est le résultat d'un long travail qui a été fait. Pour soutenir le cinéma au Brésil, mais c'est très violent.
Mais vigilance, vigilance. On continue d'en parler avec vous, Sandra Kangut. La cinéaste brésilienne Sandra Cogut est donc notre invitée ce matin. Son film « Trois étés » sortira le 11 mars prochain et c'est un film France Culture. Sandra Cogut, on parlait des discussions au Brésil qui ont trait non seulement à la culture mais à l'évolution de la société. On a appris par le quotidien O Globo il y a quelques jours qu'à côté de la fin du carnaval de Rio, de l'arrivée du coronavirus au Brésil ou des discussions lié à MeToo et à cette révolution en marche aussi au Brésil. Il se trouve que depuis le début de la semaine, Jair Bolsonaro est au cœur d'une polémique parce qu'il a partagé quelque chose sur sa messagerie instantanée WhatsApp, et on sait que ça compte beaucoup au Brésil. Il a partagé des messages appelant à une grande manifestation nationale le 15 mars. Là, je me tourne vers la deuxième casquette que vous portez régulièrement, Sandra Cogut, puisque vous êtes aussi chroniqueuse à la télé au Globo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe, puisque ça a été rapporté par le quotidien, cette histoire. C'est une histoire qui dirait que Bolsonaro voudrait supprimer le Parlement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, Bolsonaro, depuis le début de son gouvernement, il est en tension constante avec le Parlement. C'est le Parlement qui a d'ailleurs réussi à un peu contrôler certaines mesures qu'il a essayé de faire passer en force. Et en ce moment, il y a un grand débat sur qui va contrôler le budget. Et pour forcer encore un peu plus ça, il y a eu cette annonce pour espèce d'appel pour que la foule aille manifester contre les institutions, donc contre le Parlement, contre la Cour suprême le 15 mars. Et ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire que c'est clairement un rejet de la démocratie. C'est-à-dire quand on appelle si clairement à aller contre les institutions. La réaction a été immédiate et il semblerait que maintenant il essaye de dire que c'était pas exactement ça, que c'était, il avait diffusé ça dans un cadre personnel. C'est-à-dire que c'est un peu comment il fonctionne, ce gouvernement. C'est-à-dire que il force un peu la main pour tester. Et le problème, c'est que, à force de faire ça, à chaque fois, on abîme un peu plus la démocratie. C'est-à-dire que on force, et les institutions sont très, très agressées en ce moment au Brésil.
Ça fait penser ce que vous dites au discours mi-janvier de l'ancien secrétaire spécial à la culture, puisqu'il n'y a plus de ministère de la culture. Hein. Il a été supprimé, ce ministère, à l'arrivée de Jair Bolsonaro et du gouvernement. Donc, le secrétaire à la culture, alors, qui s'appelait Roberto Alvim, avait fait un discours dans lequel il avait paraphrasé Goebbels, hein, le chef de la propagande nazie. Après, il a démissionné, il a été limogé. Depuis, il a d'ailleurs été remplacé par une actrice de telenovelas, Regina Duarte. Mais c'est un peu la même chose. Il a forcé, puis il revient un peu en arrière. Vous diriez que c'est un peu le même processus, vous pensez à ça ?
Ouais, c'est-à-dire, par exemple, 24 heures avant son limogeage, il avait, le président Bolsonaro, il fait des lives hebdomadaires, et il avait été invité à une live où Bolsonaro avait déclaré que c'était le meilleur secrétaire de la culture depuis des décennies, qu'enfin, il y avait un vrai secrétaire de la culture. Moins de 24 heures après, Il est limogé parce que il a forcé un peu.
Il est peut-être allé un peu loin quand même.
Mmh. Et du coup, c'était devenu trop explicite. Mais son limogeage, en fait, à mon avis, ça change rien parce que le projet reste le même. C'est-à-dire, lui, il avait incarné quelque chose, mais son départ ne change pas quel est le projet de ce gouvernement par rapport à la culture et à l'art.
Je citais d'ailleurs la tribune parue dans Libération quotidien français il y a quelques jours, signée par un collectif d'artistes et d'intellectuels, parmi lesquels Sebastião Salgado, Caetano Veloso, Chico Buarque ou Petra Costa, réalisatrice, également Sandra Cogut, qui donc ont signé un texte pour s'inquiéter des dérives autoritaires du pays. Ce texte termine par « Le moment est grave ». Vous confirmez manifestement aujourd'hui « Le moment est grave ».
Oui, c'est très grave. Vous savez, la démocratie brésilienne, elle est quand même jeune. On a eu une dictature qui s'est terminée officiellement en 85. Et le problème au Brésil aussi, c'est que le Brésil n'a jamais fait ce travail de vraiment débattre à fond et juger tout ce qui a été fait pendant les années de la dictature. Et je pense qu'on, en partie, on voit revenir des fantômes qu'on pensait étaient loin dans le passé et pas du tout. Le président Bolsonaro et un qui dit qu'il n'y a pas eu de dictature au Brésil. Donc oui, c'est un moment très grave. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'aurait jamais pensé qu'on serait en train de vivre un moment pareil. C'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que les choses peuvent basculer très très vite. Quand on parlait du film tout à l'heure...
Le vôtre, Trois étés.
Qui est un portrait de ce moment juste avant, c'est-à-dire juste avant une grande rupture... c'est curieux parce que quand on tournait le film, on discutait beaucoup de... C'était avant les élections, on parlait beaucoup de ça, on discutait ce qui se passait au Brésil, mais personne pensait que ça pouvait aller dans la direction où c'est allé. Il y avait un danger, mais ça paraissait impossible parce qu'on a une tendance à penser que tout ce qui est civilisatoire, c'est quelque chose de acquis et qu'on peut pas, que certaines choses, on peut pas revenir en arrière. Mais en fait, on peut... Et ça peut aller très vite.
Merci beaucoup, Sandra Cogut, d'être venue ce matin au micro des matins du samedi de France Culture, nous parler d'un certain nombre de choses, dont Trois étés, le film que vous avez réalisé, qui sera en salle le 11 mars. On va se quitter quand même en musique, avec une musique que vous avez choisie. Laquelle ?
Alors, j'ai choisi une musique qui s'appelle « Eu vou botar meu bloco na rua ». C'est difficile de... C'est une expression, bloco c'est un groupe de carnaval, c'est une expression pour dire je vais agir. C'est une musique qui parle de la joie comme forme de résistance.
Magnifique.
Peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Hey.